une initiative à souligner, à mentionner, à mettre en avant. Allons faire un petit tour dans le Morbihan, plus exactement du côté de Questembert, où existe une Diwan, les écoles immersives d'apprentissage de la langue. Pour en savoir un peu plus, un des enseignants, Monsieur Fabien Léguillier, Adishat, ou plutôt Demat, je crois, comme on dit là-bas.
Demat d'or, Adishat, oui, je suis donc enseignant à l'école Diwan de Questembert, Quiche-Trébiard en breton, ou Chitombé en gallo.
Peux-tu nous préciser un petit peu ce que sont les écoles Diwan, parce que nous on connaît les Calandrettes ou les Bressols qui sont pas très loin. Est-ce que les Diwan fonctionnent de la même manière?
Tout à fait, donc ce sont les équivalents des Calandrettes ou des Bressols. Donc nous sommes des écoles en breton par immersion, où les enfants parlent breton. Voilà, tout l'enseignement se fait en breton. Donc nous, en plus, on est une école où les enfants parlent breton sur la course, ce qui n'est pas le cas souvent dans beaucoup d'écoles d'Ivron, malheureusement, où sorti de la salle de classe, les enfants ne parlent plus le breton. Là, on est une des écoles où les enfants, vraiment, le breton, c'est leur langue de tous les jours dans le cadre scolaire.
Vu avec la distance que crée le kilométrage, on a l'impression que le breton est une langue vivante. On voit tout le folklore autour, par exemple, des fest-noz et autres. Quelle réalité rencontrez-vous sur le terrain? Est-ce que les écoles sont surchargées?
Alors, c'est un vaste débat. Au niveau de la culture, effectivement, il y a vraiment une culture florissante. J'ai eu l'occasion d'aller en Corse. On me disait, l'amicale laïque en Corse, elle veut organiser un événement pour récolter un peu d'argent. Ils font un loto. Nous, on fait un fest-noz. Même une amicale laïque, même la section locale du Parti communiste ou de l'UMP, peut-être pas l'UMP, bon, va faire un fest-noz pour récolter un peu d'argent parce que ça va faire venir du monde. Donc, au niveau de la culture bretonne, effectivement, on a vraiment un succès de ce côté-là. Même au niveau des sports bretons, je pense au Gouren, par exemple, ou football gaélique. Ce genre de choses, ou même au palais, l'équivalent de la pétanque chez vous, hein. Il y a quand même un intérêt au niveau de la masse de la population bretonne pour ce genre de choses. Au niveau de la langue, d'une part, il faut préciser une chose, c'est que la Bretagne, on n'est pas dans le cadre occitan. La Bretagne, il y a deux langues. Il y a le breton et il y a le gallo. C'est-à-dire que le breton est à l'ouest, hein, d'une ligne en groupe, un Paul Presqu'île d'Urvis. À l'est, on a une langue romane qui est le gallo. Donc, on va avoir des fortes disparités au niveau de l'intérêt pour le breton et pour le gallo, suivant les zones géographiques. À l'est de la Bretagne, le gallo va intéresser plus les gens que le breton, par exemple, quoi, où il n'a jamais été parlé. Donc, voilà, on est vraiment dans une situation qui est assez compliquée. Mais, effectivement, au niveau... depuis quelques années, il y a quand même un réveil du breton, il y a quand même un intérêt croissant pour le breton qui se retrouve vraiment dans n'importe quelle commune. Il peut avoir des cours de breton, il peut avoir une école d'Ivande qui se met en place ou une école bilingue publique ou privée, enfin des classes bilingues publiques ou privées. C'est quelque chose qui est vraiment sorti d'un milieu militant, quoi, en gros.
D'ailleurs, l'éducation du breton pendant des années a été faite par les écoles confessionnelles, de ce qu'il me semble.
Alors oui, les écoles confessionnelles, ça date, hein, là, ça date vraiment, on est avant-guerre, hein, les écoles confessionnelles avaient gardé une place pour le breton dans leur cursus. C'est pas par anti-catholicisme primaire, hein, mais il ne faut pas en faire plus que ça non plus. Hein, l'arrivée de certains évêques, par exemple, n'a pas favorisé l'apprentissage du breton, bien au contraire, hein, dans les écoles confessionnelles. Et rapidement, celles-ci ont aussi perdu le breton, et voire même interdit le breton, quoi. Et de l'autre côté, il y a eu des instituteurs laïques, hein, je pense au mouvement Arfals, par exemple, qui a prôné l'apprentissage du breton dans les écoles publiques et qui a mis en place l'apprentissage du breton dans les écoles publiques, hein, puisque la première école immersive, c'était pendant la guerre, c'était un instituteur laïque, hein, qu'il avait construite, qu'il a mis en place, hein, donc Kerland de la Lande, qui était un adhérent du mouvement Arfals, quoi, un mouvement pro-communiste, hein. Donc vraiment de ce côté-là, effectivement, ça s'est plus longtemps conservé dans les écoles catholiques. Mais voilà, ça n'a pas non plus été la panacée, quoi.
En ce moment, d'ailleurs, quelle est la réalité de Diwan? Combien y a-t-il d'écoles et combien cela représente-t-il d'enfants scolarisés?
Au niveau des écoles, je crois qu'on est rendu à 50 écoles, une cinquantaine, j'ai pas le nombre là, mais on doit être à peu près rendu une cinquantaine d'écoles. Donc au niveau des enfants scolarisés, je crois que l'ensemble des filières représente 3% de la population scolaire bretonne. Donc l'ensemble des filières d'une, donc école catholique, enfin des classes catholiques dans la filière privée, En Bretagne, alors il faut préciser, c'est-à-dire qu'en Bretagne, on a 50-50 au niveau du privé public. Dans beaucoup de communes, vous n'avez qu'une école privée, par exemple. Je pense dans l'est du Morbihan, par exemple, il y a quelques années, entre Josselin et Elvin, en gros, vous n'aviez aucune école publique, quoi. Ce sont des écoles qui sont confessionnelles, mais bon, on ne peut pas dire que le poids de la religion soit très très important dans ces écoles-là. C'est juste une tradition ici, où on n'est pas du tout dans le cadre français. Les écoles privées sont très très importantes, et il y a beaucoup de petits villages qui ont aussi une école privée, une école publique, quoi. Alors, au niveau des trois filières, puisqu'il y a des Bretons dans les trois filières, public, privé et diwan, ça représente à peu près donc 3% des élèves en Bretagne.
Là, en ce moment, on voit à travers le problème qui est en train de se mettre en place au Pays Basque, et plus exactement en Andaye, qu'il y a tout un problème autour du financement des écoles immersives. Est-ce que vous avez déjà les mêmes problèmes en Bretagne?
Alors, oui. Et on aura les mêmes problèmes, et je pense que les Calandrettes et les Bressols auront les mêmes problèmes aussi. C'est simple, les écoles associatives, ça n'existe pas. Il n'y a que les écoles privées et les écoles publiques. Une école associative laïque, non confessionnelle, etc., sont assimilées aux écoles privées. Donc, celles-ci ne peuvent pas bénéficier, comme la loi le dit, de plus de 10%, je crois, de subventions pour des dépenses d'investissement. Donc à chaque fois que vous avez, il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent avec des mairies, je dirais sympathisantes, qui sont dans une certaine illégalité, que ce soit en Bretagne, que ce soit au Pays Basque, ou que je pense que ce soit en Occitanie. Je connais pas précisément la question des écoles occitanes, mais à chaque fois qu'il y a construction d'une nouvelle école qui est financée par la commune, etc., on est sur des flous juridiques. Ce ne sont pas des écoles, ce sont des centres culturels, etc. Ce sont des flous juridiques qui, à un moment, si un préfet a envie de faire du zèle, eh ben, il nous tombe dessus. Et ça, c'est pas spécifique au Pays Basque. Sauf qu'au Pays Basque, je pense qu'ils vont tomber sur un os. Comme en Bretagne, ils tomberaient sur un os si jamais ils voulaient faire la même chose, quoi. Mais il y a clairement une loi qui n'est pas du tout adaptée à la situation des écoles en langue dite régionale.
Il s'agit donc de la loi Falloux, qui au départ concernait uniquement les écoles confessionnelle et qui a été rallongée aux autres écoles, vu que, comme tu l'as dit, il n'existe pas un cadre d'école associative.
Tout à fait, même les écoles anarchistes, hein, on a à Saint-Nazaire un lycée libertaire par exemple, même les écoles anarchistes, même les écoles Montessori, Steiner ou je ne sais quoi, sont soumis au même régime, hein. Ce sont des écoles qui sont des écoles privées. Donc à partir du moment où elles sont sous contrat, elles ont un petit peu plus d'avantages, mais c'est tout, quoi. On tombe toujours sur ce qui a remplacé la loi Falloux, parce que la loi Falloux n'existe plus stricto sensu, quoi. Mais ce qui a remplacé la loi Falloux, c'est qu'une collectivité locale ne peut pas apporter plus de 10% dans un projet pour des dépenses d'investissement sur une école, quoi. Donc à l'arrivée, il y a effectivement des nouvelles écoles qui sont construites, mais on appelle ça des centres culturels, mais ce sont des écoles. Mais de la même façon qu'il y a des mosquées qui sont construites, ou des églises, ou je ne sais quoi, qui passent comme des centres culturels islamiques, centres culturels chrétiens, centres culturels bouddhistes, etc., et qui sont construites par des communes, mais qui sont construites dans une sorte de flou juridique, quoi. Donc, alors malheureusement, on ne peut pas assimiler nos écoles à des écoles confessionnelles, parce qu'elles sont strictement laïques, mais il est vrai que, concernant ces écoles-là, on est vraiment dans un flou juridique qui est destructeur, quoi, parce que des écoles diwan ou des Calandrettes, hein, peut-être, hein, je connais pas bien la situation, on pourra en mettre partout, quoi. En Bretagne, il pourra avoir des écoles diwan partout, mais à chaque fois, les parents se heurtent au même problème, c'est-à-dire les locaux.
Et de plus, se pose un autre problème, c'est que pendant les 5 premières années, les écoles immersives doivent se débrouiller pour le financement du corps enseignant.
Tout à fait, ouais. Tout à fait, on est dans la même situation, voilà, oui, les 5 premières années, on doit se débrouiller pour le financement du corps enseignant, mais ça, c'est un problème. Mais concrètement, dans une école, c'est pas encore le problème principal. Alors effectivement, le réseau national de diwan a des lignes budgétaires qui sont souvent brinque-ballantes, quoi. Un groupe de parents dans une commune lambda veut monter une école, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre l'école. Ensuite, ils organisent des fest-noz, des soirées crêpes pour payer les alzèmes et des choses comme ça. Mais au niveau des locaux, construire un local, ça coûte très cher, aux normes en plus, louer un local, ça coûte très cher, et on se heurte souvent au même problème. Il y aurait eu des écoles, en Bretagne, il y aurait eu des écoles à Loudéac, il y en aurait eu à Lamballe, il y en aurait eu je ne sais où, si ce problème des locaux avait été résolu, quoi. Et ce problème des locaux, il se heurte encore à la loi.
Mais là, si je t'appelais, c'était pas uniquement pour parler des mauvaises nouvelles et du cadre légal de l'enseignement, c'était aussi pour présenter des initiatives que je trouve très intéressantes qui se passent donc dans la Diwan de Questembert. Il s'agit dans un premier temps de l'initiation au galop. Vous êtes sur la zone frontière ou c'est par volonté idéologique?
Non, du tout. Questembert, on est vraiment sur la zone frontière. Alors, comme je vous ai dit, en Bretagne, donc il y a deux langues. Il y a une moitié de la Bretagne donc qui parle gallo et l'autre qui parle breton traditionnellement, mais la moitié qui parle gallo a pour ses deux tiers parlé breton à un moment de l'histoire, hein, jusqu'au 9e siècle. En gros, la frontière linguistique, c'était le Mont Saint-Michel jusqu'à Donge en Loire-Atlantique, quoi. Donc c'était vraiment beaucoup plus à l'ouest, à l'est plutôt. Et bon, pour diverses raisons, le pouvoir, les villes, etc. Enfin, l'influence des villes, la frontière du breton a reculé. Donc pour se mettre maintenant en gros entre une ligne allant de Paimpol à la presqu'île de Ruis, quoi. Donc du Morbihan aux Côtes d'Armor. Donc ici à Questembert, on est dans une zone frontière. Jusqu'à la Révolution, on sait qu'on a au moins parlé breton, on a retrouvé des bannières révolutionnaires, les curés devaient connaître le breton pour donner l'absolution, des choses comme ça. Et on parlait gallo aussi, c'est une zone mixte en fait. Donc maintenant le breton a un petit peu reculé, hein, à quelques kilomètres vers l'ouest, là, à Sugnac, on trouve encore des bretonnants de naissance, mais ici ce sont maintenant des galaisans, quoi, hein. Donc c'est une zone mixte, et puisque notre créneau en gros c'est la culture et une appartenance à une culture locale et une certaine cohérence par rapport à l'héritage culturel local, moi j'ai trouvé normal que le gallo soit aussi présent dans l'école. Donc un quart d'heure par jour, on fait une initiation gallo aux enfants de maternelle.
Dernière précision sur cette problématique-là. Rappelons que le gallo est une langue d'œil et que donc à ce titre-là, elle est encore plus mal reconnue que toutes les autres langues françaises.
Tout à fait. Alors le gallo est une langue d'œil, effectivement, qui n'a pas eu les lettres de noblesse qu'ont pu avoir les grandes langues minoritaires, hein, breton, basque, occitan, corse, etc. Le gallo est quand même la moins mal lotie des langues d'œil, puisqu'il y a un mouvement de promotion du gallo qui existe quand même depuis des années, hein. Même avant-guerre, il y en avait déjà. Des dictionnaires étaient faits même au fin du 19e siècle. Donc voilà. Bon, le mouvement gallo n'a pas brillé par son réalisme et sa dynamique pendant des années, mais ça commence à changer, donc c'est une bonne chose. Et maintenant, voilà, comme on est à gallo, le gallo se chaume, hein, le gallo se réveille un petit peu, quoi.
Après, d'autres choses, c'est qu'il y a eu à la fois un travail par rapport aux nouvelles technologies avec des mises en relation avec des parleurs de breton n'habitant pas en Bretagne.
Tout à fait, oui.
Ce que j'aime bien moi aussi, cette idée de casser les distances et de se rendre compte que les langues régionales, enfin les langues dites régionales, ben, ne sont pas réservées qu'à un emplacement géographique.
Tout à fait.
Et vous avez aussi une ouverture sur l'étranger, qu'il soit non français ou français. Et là, j'aimerais qu'on s'y arrête 5 secondes de plus. Je sais qu'il y a eu un travail avec le Burkina.
Oui, bah, on a une association dans le coin là, qui fait du commerce équitable avec le Burkina Faso, donc on a fait venir un Burkinabé qui a expliqué à nos enfants un petit peu ce qu'était le Burkina Faso, ce qu'était aussi le commerce équitable, hein, pour les sensibiliser, et puis ce qu'était le système scolaire au Burkina. Ça donnera un petit peu des idées et ça donnera la mesure des choses à certains élèves qui des fois se plaignent un petit peu ou ne mesurent pas la chance qu'ils ont d'être dans un environnement qui, même si on se plaint beaucoup à Diwan, on n'est pas au niveau du Burkina, donc ça va. Voilà, quoi. Donc il est venu expliquer en français d'arrêter de son pays. Sinon, on a fait des vidéoconférences avec des bretonnants partout dans le monde, qui étaient implantés partout dans le monde, puisque ici on a très peu de bretonnants de naissance qui habitent dans la commune ou autour, hein, comme je vous expliquais. On a décidé d'aller en chercher ailleurs, donc on a appelé des gens en Australie, on avait convenu de rendez-vous, je dirais, on avait convenu de dialogue, hein, avec des gens d'Australie, en Allemagne, en Galice, au Vietnam, etc. Voilà, on a fait ça en Russie également, avec des Bretons qui étaient exilés là-bas, ou alors avec des gens du CRU qui avaient appris la langue. Donc ça nous est arrivé avec une Russe notamment, une Galicienne, qui nous ont expliqué la réalité de leur pays aussi en breton. Alors pour les enfants c'est des choses très simples, hein. Ils veulent savoir ce qu'il y a, en gros ce qu'on mange, ce que les enfants font l'après-midi, quels animaux il y a, des choses comme ça, hein. On est resté dans des choses très basiques, mais ils ont pu, voilà, par exemple, on a appelé le Vietnam un jour, hein, je me rappelle de cette anecdote, on a appelé le Vietnam un jour, on l'a appelé à 10h du matin, et là-bas il faisait nuit, donc les enfants ont pu voir concrètement la réalité du temps qui passe, et puis du fait que s'il y a du jour en montagne, c'est pas forcément la même chose ailleurs, quoi. Donc la rotondité de la terre, comme on dit. Donc voilà, ça nous a permis de découvrir de façon ludique d'autres pays, et puis de découvrir que le breton c'était une langue qui voyageait aussi, qui permettait de voir autre chose que le chant et la culture locale, quoi.
Et là, en début de semaine, tu as initié un projet. Je ne sais pas si ça en est au début, mais il y a eu l'Occitan qui est arrivé dans le Diwan.
Tout à fait. Alors, on a fait une petite initiation à l'Occitan. Donc, moi, l'Occitan, c'est une langue que j'adore pour une simple raison. C'est que j'ai un oncle occitan, en fait. Un oncle qui vient d'Auvergne, de Chausnac, sous China. Et jusqu'alors, il me disait qu'il parlait patois. Et j'avais pas trop saisi, en fait, que c'était l'Occitan. Parce que, je voyais l'Occitanie plus au sud, en fait. Hein. Et donc, c'était l'Occitan, donc du Cantal. Et j'ai commencé un petit peu à apprendre l'Occitan avec lui et avec un voisin en fait qui est également cantalou, qui est de quelques kilomètres d'où est mon oncle. Et voilà, c'était vraiment un hasard, quoi. Donc j'ai commencé un petit peu à apprendre l'Occitan avec eux, noter des mots, etc. Et puis à confronter avec ce que je voyais dans des publications occitanes. Hein. Je me suis abonné à la Shimana par exemple. Je lis régulièrement le Journalais sur Internet. Et donc j'ai essayé de confronter ce que je lisais avec ce que j'arrivais à glaner auprès de mon oncle et de mon voisin, jusqu'à aller sur des sites internet pour pouvoir demander aux gens de m'écrire en écriture classique, en écriture des troubadours, hein, ce que j'avais glané ici et là, quoi. Donc l'Occitan m'intéresse et j'ai voulu en faire profiter les enfants de l'école. Parce que voilà, c'est une manière de découvrir la géographie aussi, de découvrir qu'est-ce que c'est l'Occitanie. De découvrir qu'il peut avoir une langue sur plusieurs pays, et puis c'est une langue très belle, quoi. Voilà, ça nous a donné l'occasion de découvrir comment on disait bonjour, au revoir, oui, non, et d'apprendre Sekanta, enfin Sekanto.
Et quel accueil a eu cette initiation ?
Oh ben, auprès des parents, par exemple, très bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais téléphoné à l'IO, donc l'Institut des Studies Occitan. Je leur avais demandé de m'envoyer une petite documentation pour les enfants et puis pour leurs parents. Et puis voilà, les parents apparemment ont très bien apprécié parce que on a des gens qui sont ouverts sur les cultures et tout ça. Et puis les enfants, on ne connaissait pas du tout. Pour eux, l'Occitanie, ça veut rien dire. Hein. Donc ça a été une occasion de... Mais l'Occitanie, ça veut rien dire. Mais le Pays Basque ou l'Irlande ou les États-Unis, ça veut à peine dire quelque chose aussi, quoi. À part pour les plus grands, bien entendu. Donc ça leur a permis de découvrir une autre réalité aussi, et puis voilà, quoi, ça a été très bien accueilli, parce que à cet âge-là, ils se posent pas de questions, ils sont contents de voir qu'il existe d'autres enfants qui parlent. Je leur ai expliqué qu'il existait les calendrettes, par exemple, et pour eux c'est normal, quoi, d'autres enfants qui parlent, ils parlent pas breton et français, mais ils parlent français et occitan, quoi, ou espagnol et occitan en Val d'Aran, ou occitan et italien dans les villes italiennes, quoi, donc c'est vraiment... pour eux, c'est quelque chose de normal. Et puis voilà, j'aimerais bien, mettre en place un partenariat, peut-être avec une école occitane aussi, une calendrette, quoi, pour échanger des choses. Je pense que c'est en s'unifiant entre minorités comme ça, ou entre peuples sans État ou peuples minoritaires, qu'on y arrivera, quoi.
Et est-ce que ce travail-là t'a donné envie de le développer, c'est-à-dire d'aller voir aussi comment ça se passe du côté de l'Alsace, du côté de la Corse, etc., de leur donner les mêmes bases sur d'autres sur les autres langues de France?
Ah, tout à fait. Mais ça, on avait commencé, en fait, il y a une école qui existe en Cornouailles anglaise, par exemple, enfin en Cornouailles Carnévée en breton, je sais pas, comment on dit ça en français. Enfin,
oui, bon courage pour la traduction.
En Cornouailles, il y a une école, l'école du samedi qui existe, hein, une école immersive, donc en Cornouaillais. J'ai rencontré le directeur il y a quelques temps, là, et on devrait, l'année prochaine, j'espère, pouvoir mettre en place un partenariat. Bon, le Cornouaillais et le breton, c'est très très proche. Hein. Un breton, s'il connaît quelques petites bases, il arrive à suivre un peu un texte en cornique. Donc ça, ce serait vraiment bien, parce que là, c'est vraiment des langues qui sont... très très proche, et ça leur permettrait de voir que bah le, leur culture, c'est un petit peu comme vous, l'occitan et puis le catalan, quoi. Leur culture est quelque part partagée avec des gens qui sont vraiment beaucoup plus éloignés géographiquement. Donc voilà, autrement, au niveau des Basques et des Corses, je sais que j'ai mon fils, par exemple, qui était... j'ai mon fils qui était au Pays Basque et qui est donc dans une école d'Yvonne également, hein, et qui a été reçu dans une école calandrette. Donc ça se passe de façon assez habituelle, quoi, genre, chez les écoles d'Yvonne, d'aller soit au Pays Basque, au niveau des collégiens ou des lycéens, soit d'aller en Occitanie au niveau de l'école élémentaire, quoi. Donc nous, on va continuer, oui, je pense, hein. On devait aussi avoir un partenariat avec une école au Burkina. Bon, bah, j'ai pas eu de nouvelles, on leur a envoyé des dessins, etc. On devrait... l'ouverture vers l'international, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, moi. Autant que l'ouverture vraiment sur la culture locale ici. On va apprendre à faire des boules bretonnes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais pour montrer que le breton, c'est aussi une langue qui permet de voyager, quoi. Ou que la connaissance des cultures minoritaires, ça permet aussi de voyager. Donc voilà, quoi.
D'accord.
De toute façon, c'est soit ça, soit en gros, ils vont tomber dans la culture américaine, quoi. Si j'ai rien contre la culture américaine, c'est pas ça, quoi. Mais si l'école peut leur apporter une autre vision, ce sera très bien, quoi.
Oui, une ouverture et le choix d'être normalisé ou pas.
Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais. Il y en a qui coteront du rap et qui mettront des jeans et qui iront à la Wii. Enfin, mes gosses font ça aussi, quoi. Le problème n'est pas là, quoi. Mais c'est que si on est dans D-Wand, je considère qu'on doit un peu faire connaître justement le monde invisible, en gros, quoi. Parce qu'on, des calendrettes, on les verra jamais, ou très peu à la télé, ou les bressoles, on les verra jamais ou très peu à la télé, quoi. C'est un petit peu à nous aussi de faire découvrir. Et puis, une dernière chose, si je pouvais faire honte un petit peu à quelques Occitans qui ont une très belle langue, vraiment une très belle langue, et qui ne font même pas l'effort de l'apprendre et de la parler, eh ben, j'aurais gagné quelque chose. Voilà, je préfère encore qu'il y ait un gamin ici qui sache dire Kinchin Kobay ou Adisha, et plutôt que de laisser cette langue partir, quoi, parce que c'est vraiment l'Occitan est vraiment une très belle langue et qui est beaucoup moins dialectisée et fragmentée qu'on pourrait le penser. Je trouve que par rapport au breton ou à l'irlandais, par exemple, c'est une langue qui est assez unie, quoi, malgré tous les dialectes et puis l'étendue du secteur occitan. C'est une langue qui est vraiment très belle, et si vous êtes occitan, si vos grands-parents, vos parlants parlent occitan, si vous êtes dans un environnement occitan et que vous ne connaissez pas la langue, vous êtes vraiment qu'une bande de cons.
Eh bien, au moins le message a été dit.
Tout à fait.
Je te remercie et puis je te souhaite de continuer à faire découvrir les cultures et que les enfants puissent comprendre ou se rappeler ce que ça voulait dire quand ils seront en âge d'avoir tout intégré.
Tout à fait. Peut-être que ça va former quelques... Enfin, peut-être que ça va laisser des traces dans quelques cerveaux, quoi. C'est ce qu'on se dit, quoi. Il y en a peut-être un ou deux qui se diront, tiens, je me rappelle avoir vu ça un jour. Voilà. Ça sert aussi à ça, l'école, quoi.
Eh bien, Kenavo, Adishat.
Kenavo, Adishat, Ainatoku. Adishat, Ainatoku.